بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, nous ne remercierons jamais assez Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité, après nous avoir choisi parmi les musulmans de ce quartier pour accomplir la salat en congrégation, avec des récompenses que nous savons 25 voire 27 fois plus, Allah choisit un groupe parmi ces musallis pour écouter les paroles du dîn d'Allah. Et ce ne sont pas là des paroles vaines, ce ne sont pas des paroles général, ce ne sont pas des généralités qui sont exposées dans ce discours, c'est les commentaires des versets, les commentaires de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé comme meilleur des livres à son meilleur prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et ce texte Allah a révélé pour qu'il soit lu, médité et mis en pratique jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un musulman sur terre qui dit Allah. Là, Allah subhanahu wa ta'ala reprendra son livre et là le Coran ne sera plus lu. Donc jamais dans l'histoire de l'humanité il y a eu un livre dont les versets seront lus par autant de personnes sur un laps de temps aussi long que le Coran. Et le sourate qu'on avait commencé la dernière fois, c'était wa shamsi wa duhaha. On avait expliqué que ce sourate est makki, c'est-à-dire le sourate a été révélé à Makkatul Mukarrama. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait qasam, il cite sept choses qui font partie de sa création, sept choses qui sont visibles de l'œil humain, qui sont visibles, dont l'être humain peut constater la présence matin et soir. Ce sont là des signes évidents qui prouvent la présence d'un créateur, qui prouvent que ces choses, avec leur force, avec leur puissance, avec le pouvoir qu'il y a à travers ces créations, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un à l'origine de ces choses-là. Jamais un soleil n'aurait pu éclairer la terre, jamais une lune n'aurait pu donner une telle lumière, jamais il y aurait eu l'alternance entre le matin et le soir, jamais le ciel ne tiendrait sans qu'il y ait de piliers, et le ciel ne serait aussi long, haut et inaccessible. Et cette terre aussi profitable à l'homme, avec une terre qui est aplanie et dont la majeure partie de la terre permet à l'homme de manger et de faire paître et brouter les animaux. Ce sont là des signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prouvent l'existence d'un créateur qui est unique. Et on rappelle que le prophète sallam, lorsqu'il donne des exemples aux Quraysh d'une manière générale, aux arabes polythéistes, c'est pour leur faire comprendre que, comme vous acceptez que celui qui est à l'origine de ces créations, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala, et non Allah, Al-Uzza, ou Manat, ou autre idole, ou autre pierre, alors si vous acceptez que c'est Allah l'unique qui est à l'origine de toutes ces créatures, de toute cette création, vous ne pouvez pas adorer autre qu'Allah. Il est insensé que vous vouez le culte à d'autres qu'Allah. Comment pouvez-vous demander la nourriture, la santé, le succès à des divinités alors que vous savez pertinemment que ces divinités-là n'apportent rien, que c'est Allah l'unique créateur. C'est ce qu'on appelle le tawhid rububiyya qui prouve le tawhid uluhiyya. Un, c'est l'unicité d'Allah dans la création, et l'autre, c'est l'unicité d'Allah dans le culte, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre signe qu'on n'avait pas expliqué il y a deux semaines, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Alors, on va essayer ce soir, Inch'Allah, on aura le temps, Allah et Baraka de le temps, on va essayer de compléter وَشَمْسِ وَضُحَاهَا. On ne va pas peut-être trop entrer dans les détails, mais ce surat, en même temps, ce surat est très simple, il est très explicite, et la fin du surat parle de l'histoire d'un des peuples précédents, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire, c'est juste l'explication de l'histoire. Mais en même temps, ce sourate parle de la création, et ce sourate parle, maintenant dans le verset qu'on va voir, explique que même les actions des hommes sont créées par Allah. C'est ce qu'on appelle en arabe, il y a une formule, afalul ibad makhluqa. C'est-à-dire n'importe quelle action que vous allez faire, cela et dans le ilm d'Allah. Allah, il savait que vous alliez le faire, et Allah avait déjà écrit dans le destin. Voyez ? Donc, on va expliquer ça, et donc, ça peut laisser croire que tout est prédestiné, donc on n'a pas le choix de l'accomplissement des actions, mais lorsqu'on va citer l'histoire de Thamoud, on voit bien qu'ils ont été punis parce qu'ils ont fait telle chose. Et on va voir que le prophète Salih alayhi salam avait dit à son peuple, surtout ne faites pas ça, surtout ne faites pas ça, si vous faites ça, vous aurez ça. Donc vous avez le choix entre le faire et ne pas faire. Et ils ont choisi de faire l'erreur, et on a vu, on va voir que le azab d'Allah est descendu. Donc ce sourate comporte certaines indications sur le juste milieu qu'il doit y avoir dans la croyance du musulman concernant le destin. Donc on a le tawhid de lui, c'est d'Allah. On a le tawhid de la création d'Allah, de ce qu'Allah a créé, pardon, et on a des notions du destin, et en même temps on a l'histoire d'un peuple précédent. Et lorsqu'Allah cite, hein, selon certains commentaires, lorsque Allah cite le cas de peuple précédent, c'est pour que les musulmans sachent qu'avant vous, il y avait d'autres peuples, et que ces peuples, eux aussi, ils avaient maltraité leur prophète, et que les gens qui ont suivi ce prophète, eux aussi, ils étaient maltraités. Mais à la fin, malgré les persécutions, malgré les difficultés, malgré le fait qu'on traitait ces gens de sorciers, de menteurs ou de fous, ces personnes, malgré ces difficultés, en finalité, après patience et endurance et istiqama, fermeté dans leur foi en Allah et confiance en la destinée qu'Allah Ta'ala a déjà écrite, à la fin, Allah Ta'ala a toujours donné al-fawz wal-najah, le succès aux muttaqin, à ceux qui avaient la crainte d'Allah dans leur cœur. Donc c'est un exemple que les sahaba ils ont eu, que le prophète a eu par rapport aux autres prophètes avant lui, ses frères prophètes qui eux aussi étaient traités de sorciers et de mensonges. Ils ont connu les mêmes difficultés, mais Allah a donné nusrat à ses prophètes. De la même manière, Allah va donner nusrat au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, ceux qui ont cru aux autres prophètes, ils ont eu le succès. Et ceux qui croient en Mohammed en ce jour, malgré les difficultés, viendra un jour où ils auront le succès. Ça, c'est en résumé les points essentiels de Washamsi wa Duhara. Alors, lorsqu'Allah Ta'ala dit après avoir fait qasam par le soleil, par la lune, par le matin, par le soir, par le ciel et par la terre, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le septième signe, c'est et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Allah Ta'ala fait qasam par les âmes, par les créatures maintenant, c'est-à-dire les êtres vivants, on pourrait appeler ça les êtres animés, c'est-à-dire êtres humains. Ou alors les animaux également. Lorsqu'Allah Ta'ala dit, et par l'âme ou un nafs, hein, ça englobe les mots facilités, ça englobe tout ce qu'Allah a pu créer comme être animé, c'est-à-dire comme être réellement vivant. Après avoir cité les êtres inanimés, soleil, lune, montagne, matin, soir, ciel, terre, c'est la création d'Allah, mais ce ne sont pas des êtres animés, ce sont des êtres inanimés qui ne bougent pas. Maintenant, Allah il fait qasam par tout ce qu'il a créé comme être vivant. D'accord? Parce que la terre aussi, elle vit, les arbres, tout ça respire. Donc, c'est pour ça qu'on pouvait appeler être animé et inanimé. Donc, wa nafsin wa ma sawaha. Alors, sawaha, et Allah l'a harmonieusement façonné. Les mots façonnés disent qu'il y a deux sens, les deux, de deux manières. De un, Allah a parfait la création de ses makhlouqat, de ces êtres animés, et Allah les a guidés dans l'objectif de leur création. C'est un peu complexe quand même. Hein? Cela rejoint un verset de lequel Allah dit Alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. C'est-à-dire que Allah a façonné de la meilleure façon toutes ces créatures, que ce soit l'animal, dans l'oreille animal, que ce soit le bétail, que ce soit les animaux qui sont petits, les animaux qui sont grands, les animaux qui volent. Allah a créé chacun de ces animaux, avec, de ces créatures, avec des sifats particuliers, avec des caractéristiques qui leur sont propres et qui sont profitables pour le but pour lequel ils ont été créés. On a déjà expliqué que parmi les signes de la grandeur d'Allah, de la perfection dans ce qu'il a créé,
Le fait qu'Allah a créé par exemple les insectes infiniment petits et les animaux dont on a besoin pour la consommation, ils sont plus gros, ils sont plus grands. Hein? Heureusement que le bœuf, il est grand, il est gros, suffisamment pour qu'on mange un mois ou deux mois dans un animal. Et qu'Allah a créé par exemple le cafard ou la fourmi minuscule. Parce qu'imaginez un cafard qui était de la taille, qui serait de la taille d'un animal, comme un bœuf ou un chameau. Voilà la fourmi qui était grande. Donc ça aurait été des animaux effrayants et ça aurait été des animaux destructeurs également. Donc, dans le mizan, dans la manière qu'Allah les a créés et dans le but pour lequel ils ont été créés, Allah les a donné le sifat qu'il fallait, les caractéristiques propres à chaque créature. Et en plus de ça, Allah a donné le sifat qu'il fallait, par exemple, les Mufassins disent par exemple, le pouvoir, la possibilité de voir, la possibilité d'entendre, la possibilité de parler. Et ça, c'est la kamal, c'est la perfection de la création d'Allah. Dites à un scientifique, ceux qui, hein, on revient tout le temps sur le même exemple, ceux qui osent dire qu'ils savent créer, donner la vie, ils savent donner la vie par un intermédiaire du clonage. Dites à un scientifique de créer un œil. Il va inventer un radar. Le radar, il pourra le faire. Les trucs infrarouges, ou alors Bluetooth, ou alors, je ne sais pas, tous les moyens assez modernes qu'il y a pour détecter des sons ou des présences, ou les trucs que les caméras thermiques pour détecter s'il y a des êtres vivants qui sont là, etc., etc. Ils pourront faire tout ça. Les satellites qui ont 12 000, 15 000, je ne sais pas, 100 000 kilomètres, hein, ils savent est-ce qu'il y a quelqu'un là, est-ce qu'on va bombarder telle montagne, est-ce qu'il y a des musulmans qui sont là parce qu'il faut absolument les tuer. Tout ça, ils ont fait ça. Ils savent le faire, ils sont très forts pour ça. Mais dites à un scientifique de créer un œil qui voit. Vous voyez, prenez un chat, ou un chien, ou un pigeon, n'importe quoi, qui est borné, qui a un seul œil. Vous voyez, dites à un scientifique, ben voilà, monsieur, hein, vous avez fait l'université de Massachusetts ou l'université de Californie, vous êtes le plus grand spécialiste. Vous voyez, maintenant, il faut absolument un œil pour cet animal ou pour ce bébé qui est né. Aucun être vivant, aussi fort soit-il, quelles que soient ses compétences, ne pourrait créer un œil, un véritable œil, qui puisse voir toutes les couleurs qui existent dans la création. Ça, c'est la qudrat d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné la vie aux créatures et qui les a donné ce qu'il faut pour leur permettre de vivre. Tout ça, ce sont des signes de la création d'Allah. Maintenant, comment Allah a façonné ces créatures en leur donnant des spécificités, et également en leur guidant pour la voie pour laquelle ils ont été créés. Chaque animal a un but précis dans la création. Il n'y a pas une créature inutile. Vous parlez du massacre d'éléments, quelqu'un pose la question, est-ce qu'on peut manger du crabe? On expliquait que chez les Ahnaf, le crabe est haram parce que le crabe, il a un peu les spécificités du porc qui mange que des impuretés, taïb, alors que chez les Shafiri et d'Admathab, on peut consommer parce qu'on appelle crabe habitant de la mer. Donc, le masla, ce n'est pas le but du discours. Et un élève m'a demandé, vous savez pourquoi il a créé le crabe alors? Si c'est pour manger des impuretés, mais c'est pour ça, élève est brillant et intelligent, le crabe est un nettoyeur de fond. Il nettoie les fonds marins, il va nettoyer le fond, la mer, des impuretés, des choses qui ne doivent pas être là. Donc même si un animal, on a l'impression qu'il est vil, qu'il est inutile, ou pour les enfants, il dit que les animaux, ça il fait peur, pourquoi Allah a créé ça, les bêtes là il fait peur, même s'il fait peur, Allah a créé chaque créature pour un but précis. Il y a quelqu'un qui m'expliquait l'autre fois, lorsqu'il y avait le problème de chikungunya, il expliquait que même les moustiques, ils ont un but de la création. Il dit que quand un fruit, je sais, quelqu'un m'a expliqué, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais je vois beaucoup de gens, ils disent beaucoup de choses. Il a dit, quand un fruit est tombé, un fruit qui tombe, par exemple, une mangue qui tombe d'un arbre, il a dit, tant que le moustique ne touche pas, le fruit ne pourrit pas et donc il ne va pas se détériorer. Il m'a expliqué, je n'ai pas trop compris, il m'a expliqué que même les moustiques, on essaie de tuer ces moustiques, mais eux aussi, ils ont un but de la création. Il n'y a pas un animal qui est nuisible à son poisson, qui n'apporte rien. Tout ce qu'Allah a créé, il y a un but. Vous voyez, même si les enfants, ils ont peur d'écran contre la volant, lui aussi, il a son maqsad dans la création. Vous voyez? Alors, mais non, bon, ça c'est pas le sujet. Certains, alors, j'entends parfois, il y a des docteurs qui disent ça, machin, ils disent que tout ce qu'il y a de. Ils disent que. Allez, on va parler d'abord de ce que les koufars disent. Maintenant, certains médecins disent que l'appendicite, l'appendicite c'est une maladie, je crois, l'appendice, c'est un membre inutile de le corps humain. On peut enlever, c'est inutile. On peut pas dire ça. Même si les scientifiques disent que l'appendice n'a aucune fonction, assurément, si Allah a créé ça, c'est qu'il y a un but, il y a une fonction dans le corps humain. D'accord? Et certains docteurs disaient que quand ils opèrent le genou, les ménisques, voilà, autre chose, ils disent qu'ils peuvent prendre des os dans d'autres parties du corps et mettre à la place. Alors certains disent que subhanallah, Allah a créé l'homme, il a donné les yeux, la vue, etc., l'ouïe, hein, les membres qui lui permettent de marcher, de travailler. Et en plus, c'est comme s'il y avait des pièces de rechange aussi. C'est un peu ça. Hein, si quelqu'un vient déboucher une artère, il peut prendre des veines dans les jambes. C'est-à-dire, c'est comme si que il y avait des pièces de rechange. Il n'y a pas besoin d'aller chez BPA ou ailleurs. Il y a déjà vos pièces de rechange. Ça, c'est la perfection de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les animaux, ils ont été créés pour un but précis et ils accomplissent ils font partie de l'objectif de la création. Et pour l'homme, Allah a créé l'homme et Allah a guidé l'homme. C'est ce qu'on appelle al-fitra, l'inéité. C'est-à-dire que lorsqu'un homme est né, lorsqu'un bébé né, automatiquement il a la foi en Allah et il croit en l'existence d'Allah, car dans notre monde Allah avait demandé alastu birabbikum qalu bala. Tout le monde a attesté que Allah est notre Dieu et notre créateur. Maintenant, comme ça me dit kullu mauloudin yuladu ala fitra, n'importe quel nouveau-né né sur le droit chemin. Et ensuite fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maintenant, c'est les parents qui vont donner l'éducation religieuse, soit sur le tawhid, l'unité d'Allah, soit selon telle croyance, soit selon telle croyance, ou alors selon telle croyance. Mais à l'origine, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala crée un homme, donc l'enfant né, il croit en Allah, il sait qu'il y a un Dieu. Vous voyez? Donc ça c'est Onafsi Omasawaha, en plus d'avoir cité toutes les créations qu'on voit en haut, en bas, à droite, à gauche, maintenant Allah il cite ceux qui habitent cette terre. Les créatures vivantes, inanimées, qui habitent cette terre et qui voient tous les signes cités précédemment. Vous voyez? Maintenant, Allah a dit فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Cela concerne l'homme, selon les commentateurs du Coran. Alors, et Allah donc a alors inspiré, donc la traduction littérale, et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. Alors, ça c'est complexe, mais on va essayer de simplifier ça, Inch'Allah, qu'Allah nous aide. Alors, dans ce verset, on va passer à un autre mot facile qui donne plus de détails. Alors, il dit que Al-Fakhr al-Razi, rahimahullah, il explique que une des opinions, c'était quoi? C'est qu'Allah Ta'ala, il montre à l'homme qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais. C'est qu'Allah, il inspire à l'homme, il fait en sorte que l'être humain sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui fait partie des actions correctes et qu'est-ce qui fait partie des actions immorales. Et ça, c'est une opinion. Ça peut être plausible, mais le tafsir le plus fréquent, ce qui est cité par la majorité des commentateurs du Coran, c'est quoi? C'est qu'Allah Ta'ala a inspiré aux musulmans les actions du Jannah. Et Allah inspire à ceux pour qui il a prédestiné l'enfer les actions qui y mènent. Vous voyez? Bon, si on se contente que de citer ça, automatiquement on va vers le fatalisme. On dit, ah bon, donc Allah a créé ceux qui vont au paradis et ceux qui vont aller en enfer, donc les gens du paradis ils ne feront pas de péché, et les gens de l'enfer qui sont destinés à l'enfer ils ne feront pas de bonnes actions. Non, c'est que Allah a destiné pour eux telle chose et telles actions parce que Allah il savait à l'avance quelle aurait été leur décision, comment ils allaient se comporter, et ça on avait déjà expliqué dans d'autres sourates avant. On va pas revenir sur toute la notion du destin qu'on avait déjà expliqué dans quelle sourate Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Mais retenons ce que le passage a dit. Man kana Allah wa man in subhanallah, c'est tellement petit. La ilaha illallah. Anna man kana Allah khalaqahu li ihda al-manzilatayn yuhayyi'uhu laha. Le passage a dit que celui Allah a créé pour une des deux demeures, Allah il fait en sorte qu'il accomplisse les actions qui mènent vers cette demeure. Et Brassam a cité ensuite Dalika wa tasdiqu dhalika fi kitabillah. Brassam a cité le verset qu'on est en train de commenter pour montrer bien qu'Allah Ta'ala, hein, il a désigné les gens du paradis et Allah Ta'ala les a montré quelles sont les actions à faire, et Allah a déjà désigné les gens de l'enfer et Allah Ta'ala les a montré, il les a inspiré quelles sont les actions donc de l'enfer. Mais en aucun cas, comme on le répète, cela ne veut dire qu'aucun homme n'a le libre arbitre. Allah il laisse à l'homme le choix de faire ce qu'il veut comme action, de choisir entre le bien et le mal, mais Allah il sait déjà à l'avance quelle serait la décision, quelle sera plutôt la décision de cette créature, et quelle sera donc sa destinée, ce qui rejoint le verset qu'on avait vu la dernière fois, le sujet d'avant, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى et là, وَأَمَّا مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى etc., etc. Donc, on voit que tous les versets, ils comprennent à peu près les mêmes sens, et tout cela se rejoignent. Voyez. Donc on continue, Allah Ta'ala dit donc à propos des deux catégories de personnes maintenant, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, a réussi, c'est celui qui l'a purifié. Comprenons, ça c'est extrêmement simple, la personne qui grandit et qui reste dans l'adoration d'Allah, dans l'unicité d'Allah, en observant les règles qu'Allah a révélées à son prophète, alayhi salatu wassalam, et de n'importe quel prophète avant, pour les peuples d'avant, cette personne, aflaha, cette personne a eu le succès. Alors que, waqad khaba man dassaha, est perdu, certes, celui qui l'a corrompu. Comprenons que la personne qui a choisi l'autre chemin, cette personne, elle est dans la perdition, et cela rejoint ce qu'on vient de dire encore, fa'amma man a'ata wa taqa, dans un sens. Dans un côté, celui qui donne dans le chemin d'Allah et qui a la crainte d'Allah et qui croit à ce qu'Allah a promis, il aura telle chose. Et celui qui ne fait pas, qui ne croit pas, il aura telle chose. Donc ces deux versets montrent bien les deux catégories de personnes. Ceux qui seront sur Sirat al-Mustaqim et ceux qui sont réels maghdoubi alayhim. Ceux qui sont maghdoubi alayhim et ad-dallin et ceux qui n'ont cru en aucune divinité ou alors en beaucoup plus de divinités. Et en commentaire, le Mufassir dit que pour faire partie de ces personnes, il faut en permanence demander à Allah de purifier notre intérieur, de purifier notre âme et de garder notre âme, notre ruh, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète de demander ce doigt, Allahumma aati nufusana taqwaha, ou Allah donne-nous la piété, wazakiha, c'est-à-dire purifier notre âme, wazakiha anta khayru man zakkaha, que ce cœur, que cet iman, ce irada reste sur le droit chemin, sur l'unicité et la pureté du tawhid, du monothéisme, et sur le chemin de l'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on a fait 22 minutes. Si vous permettez, en 8 minutes, on va clore le surat avec l'histoire de Samoud. Alors, quel d'abord Samoud bitarwaha? Donc, le peuple de Samoud a démenti à leur prophète, donc par la transgression. Et Zimba'atha Ashqaha, lorsque le plus misérable d'entre eux se leva, donc pour égorger la chamelle. Faqala lahum Rasulullah, naqatallahi wa suqiyaha. Et le prophète Salih alayhi salam, il avait donc mis en garde, attention, ça c'est la chamelle qu'Allah a créée, et laissez-la boire. Fakadabuhu fa'aqaruha, ils n'ont pas cru en Thamoud, ils l'ont démenti, ils ont égorgé donc la chamelle. Fadamdama alayhim rabbuhum. Leur Seigneur les détruisit donc pour leur péché et étendit son châtiment sur tous. Et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Alors, pour être plus concis, il y a un livre que vous connaissez, Qasas al-Nabiyyin, dans lequel elle est expliquée l'histoire des prophètes. On connaît que Salih, le prophète Salih alayhi salam, a été envoyé vers le peuple de Thamoud. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. Alors, ces personnes habitaient dans une région qui s'appelle toujours Al-Hijj. C'est entre le Hijaz, c'est-à-dire Makka, Madina, Jeddah, et Tabouk. D'ailleurs, lorsque les musulmans sont partis pour la campagne de Tabouk, ils sont passés près de cette cité où le peuple de Thamoud habitait. Taïb, sur certains précision, c'est entre Madina, Munawara et Damas, qui est donc en Syrie. C'était des gens qui avaient une espérance de vie très longue, comme c'était le cas pour les peuples avant nous. Et ils étaient également très forts, et il explique qu'une personne pouvait construire une maison en argile, et que la maison s'écroulait avec le temps. Alors que l'argile, ça tient longtemps. La maison avait le temps de s'écrouler avec le temps, et cette personne-là est toujours vivante. Donc, ils commençaient à creuser des maisons directement dans la montagne, creuser des maisons dans le roc, dans la pierre de la montagne. Et le peuple de Samoud, je rappelle, c'est le peuple qui est venu juste après le peuple de Ad. Et Ad qui est venu vers eux, le prophète qui s'appelait Hud, alayhi salam. Alors, petit commentaire, l'histoire de Ad et de Samoud ne se trouve pas dans la Bible. Pourquoi ça? Alors que ce sont deux peuples dont l'histoire a même été citée par Moussa alayhi salam. Dans un verset, Moussa alayhi salam, hein, il met en garde son peuple. Hein, il dit attention au peuple avant vous, le peuple de Noé, de Had, de Samoud et de ceux qui vinrent après eux et que connaît Allah seul. Donc les commentateurs disent que l'histoire de Had et de Samoud se trouvait dans la Taurat également, à l'origine. Mais ils disent que, je lis le texte, on pourrait penser que parce que ces peuples sont arabes, ces communautés, ils ont évité de le transcrire dans la Bible pour en effacer les traces, parce qu'ils n'acceptent pas qu'il y a eu prophétie sur les Arabes. Vous croyez que ceux qui ne croient pas, ceux qui croient dans d'autres religions, ils croient que Mohammed est le prophète d'Allah? Non, ils seront bien avec vous, de bonnes relations, mais jamais il va attester que Mahomet est le prophète de Dieu, sinon il serait musulman. Et s'il rectifie son monothéisme, il n'y a plus de problème. Enfin, donc ils ont voulu effacer toute trace des peuples qui ont les origines arabes. Enfin, alors, je lis texto, parmi la preuve, beaucoup de sources et de références anciennes, non arabes, attestent de l'existence du nom et du peuple Samoud dans l'histoire. Parmi ces documents, l'inscription de Sargon qui remonte en l'an 715 avant Jésus-Christ et qui mentionne le nom des Samoud parmi les peuples de l'Est et du centre de la péninsule arabique qui furent soumis par les Assyriens. Les Samoud ont aussi été cités dans les ouvrages d'Aristote et de Ptolémée. Donc, dans la littérature grecque, déjà la philosophie grecque, ils savaient l'existence de Had et de Samoud, donc c'est délibérément si leur histoire n'a pas été mise dans la Torah, dans l'Injil précisément. Vous voyez, c'est une petite parenthèse. Alors, le peuple de Samoud ne croyait pas en la prophétie de Saleh, alayhi salam. Et ils ont demandé un signe évident. On est très concis, hein. Ils ont demandé à Samoud un signe, un mu'jiza. On te croira si tu accompliras tel miracle. Alors, quel fut le miracle qu'ils avaient demandé? C'était quelque chose d'exceptionnel. Ils ont dit à Samoud que, quel signe? Ils lui demandaient, hein, de leur faire sortir une chamelle d'un rocher. Il dit que de ce galet-là, de cette roche, fait sortir une chamelle. Et en plus, regardez les pervers. Ils avaient des caractéristiques particulières. Ils en firent une description précise. Ils voulaient que la chamelle fût pleine au 10e mois de gestation et qu'elle fût de taille énorme. Et qu'il y avait telle sifat. On dit, oh Samoud, nous croirons en toi qu'à partir du moment où tu pourras faire sortir de ce rocher-là une chamelle pleine de 10 mois et qui est forte et grosse et haute. Ils ont demandé quelque chose d'impossible. Alors, Saleh a dit, il a demandé à son peuple, si je réalise ce désir, ce vœu, est-ce que vous me promettez que vous aurez iman en moi? Ils ont accepté, dit oui, on te croira si tu fais ça. Ils, pour eux, jamais. Ils voulaient se moquer de Hazrat Saleh alayhi salam. Et là, Saleh alayhi salam, hein, il a demandé de Allah Azza wa Jal, et Allah Ta'ala lui a accordé ce mu'jiza. Lorsque l'ordre d'Allah est venu, Allah Ta'ala a fait en sorte qu'une chamelle pleine, au 10e mois, forte, grande, comme ils avaient demandé, sorte de la roche. Et en commentaire dit que le rocher qu'ils ont désigné s'est mis à bouger. Comme une femme qui est en train d'accoucher, le rocher s'est mis à bouger, et de ce rocher est sortie donc la chamelle exactement comme ils avaient demandé. Une partie du peuple a attesté qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que Salih est le prophète d'Allah. Mais la majorité, ils sont restés dans le kouf. Et ce signe d'incrédulité, on le retrouve dans la plupart des peuples auparavant. Mais à chaque fois qu'un peuple avait demandé à leur prophète un miracle et que le prophète réalisait, et les gens qui ne croyaient pas en la prophétie après ce miracle, ils étaient immédiatement détruits par Allah, du premier jusqu'au dernier. C'est pour ça que par pitié pour cette communauté, pour les Arabes qui étaient donc les ancêtres et le peuple, le prophète Salam n'a jamais accompli de miracle flagrant comme les autres prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils savaient quel était le tabia, la nature des Arabes. Que s'ils demandaient tel miracle, le prophète l'aurait fait, beaucoup d'entre eux, malgré ça, ils n'auraient pas cru. Et le prophète ne voulait pas qu'Allah les détruise du premier jusqu'au dernier. Ça, c'est une preuve de la rahmat qui avait dans le cœur la gentillesse, la grandeur d'âme et l'affection que le prophète avait pour sa umma. Regardez l'histoire de Taïf, Ces gens, ils ont fait saigner la poisse sallam comme aucun autre prophète n'a été frappé. Le sang coulait du corps Mubarak sallam à un tel point que ce sang descendait dans les sandales et collait les sandales aux pieds du prophète alayhi salatu wassalam. Malgré ça, lorsque l'ange est venu, le prophète a dit que si, en ce sens, hein, si eux ils ne me croient pas, Allah fera sortir de ce peuple, c'est-à-dire de la génération future, des gens qui croiront en moi, qui croiront en Allah et qui auront le iman. Ce qui fait qu'Allah n'a pas détruit ces gens. Et quelques années après, le peuple de Taïf est devenu musulman. Le prophète a conquis Taïf et ils se sont convertis à l'islam. Et maintenant, Taïf est une ville entièrement musulmane. Et comme on dit, Taïf est même le lieu résident secondaire de tous les grands ulama de la péninsule arabe. Les grands muftis, les Darul Ifta, les grands muftis de toute la péninsule arabe, ils se retirent à Taïf pour leur grand mashwara. Bref, comprenons quelle était la bénédiction, quelle était la pitié que le prophète, l'amour qu'il avait pour sa communauté. Ce qui fait qu'il n'a jamais voulu réaliser un grand miracle, sachant qu'Allah aurait détruit les Arabes s'il n'acceptait pas. Alors, est-ce qu'on continue? Bien, on a atteint 30 minutes. On continue bien, on s'arrête. On garde pour la prochaine fois. Cher, on va continuer 2 minutes, mais on va aller plus vite, Inch'Allah. Alors, maintenant, ils ont vu cette chamelle. Allah Ta'ala a fait des conditions que maintenant, cette chamelle, elle est parmi vous, mais il faut laisser cet animal libre, paître normalement, manger, brouter de l'herbe. Et l'eau qui était une denrée rare, il y avait un puits. Allah Ta'ala avait dit que un jour c'est pour les gens et un jour c'est pour cette chamelle. Uniquement. Lorsqu'elle va boire, personne ne va boire, aucun animal n'y va. Et lorsque cette chamelle buvait, elle terminait toute l'eau du puits. C'est la foudrat d'Allah. Cette chamelle, lorsqu'elle buvait, elle terminait toute l'eau du puits. Et le lendemain, donc, c'était le tour des autres personnes. Donc, déjà, certaines personnes n'aimaient pas cette chamelle. Mais le lait qu'elle donnait, selon certaines versions, était tellement abondant que cela suffisait pour tout le monde. Allah Ta'ala a révélé à Salih alayhi salam que parmi son peuple, il y aura un jour des gens qui vont tuer cette chamelle. Alors, Salih, maintenant, s'adresse à son peuple, dit Allah m'a révélé que parmi vous, il y aura des gens qui vont tuer cette chamelle. Attention! Et là, ils ont dit que jamais quelqu'un parmi nous ne pourrait faire ça. Ils ont dit qu'on ne pourra jamais faire ça, jamais, pas nous. Salih a dit, si ce n'est pas vous, c'est un de vos fils. Parce qu'Allah a dit que cela se produira, si ce n'est pas vous, ce sera de votre descendance. Et ils ont demandé, comment sera cette personne? Et là, Salih a dit, ce sera un jeune qui aura le teint vermeil. Ça veut dire quoi, teint vermeil? Je ne sais pas, le teint, un beau teint, certainement. Aux yeux bleus pâles et aux cheveux roux. Alors là, qu'ils ont fait? Ils ont cherché dans tous les enfants qui naissaient, de toutes les naissances, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né, un bébé qui est né, qui ressemble, qui correspond à cette description. Et ils ont trouvé un jour un enfant qui portait exactement cette description. Lorsqu'ils ont voulu prendre cet enfant, les parents se sont opposés. Et ils ont laissé cet enfant grandir, et ce fut le pire des enfants. Il grandissait 10 fois plus vite que les autres enfants. Cet enfant grandissait 10 fois plus vite qu'un enfant normal, c'est-à-dire il allait vers son destin. Son destin, c'était de provoquer la colère d'Allah. Il allait vers son destin qui le poussait vers le fait d'égorger cet animal. Vous voyez? Alors, à ce moment-là, Salih, il ne vivait plus avec son peuple. Salih, hein? Il ne vivait avec son peuple, il s'était retiré, il passait ses nuits dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez? Alors, cette personne, si je ne me trompe pas, elle s'appelait Qudar ibn Salih. Si je ne me trompe pas, d'accord? Cette personne, c'est elle qui a tué, donc lorsqu'elle grandit, elle a tué l'animal d'une flèche. Parce qu'il avait bu du vin, il voulait aller au puits pour couper son vin, lorsqu'il a vu la chamelle, donc il ne pouvait pas s'approcher, il s'est décidé à abattre. L'histoire est un peu plus longue, on a raccourci l'histoire. Alors, lorsqu'il a tué la chamelle, Taïb, un homme pieux, il courait informer son lit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsque les gens, ils ont su, les gens, ils couraient, Salih était furieux. Ils couraient vers Salih, oh Salih, pardon, on te demande maf. Ils savaient qu'il y aurait eu des problèmes énormes. Ils demandaient 1000 excuses à Salih. Et Salih, lorsqu'il a vu la chamelle morte, il a dit que, essayez de voir s'il pouvait sauver le bébé de cette chamelle. Peut-être si cet enfant, ce bébé était encore vivant, peut-être qu'Allah aurait pitié de vous. Lorsque le bébé, donc de la chamelle, a vu sa mère mourir, il a pris la fuite. Il s'est réfugié au sommet d'une montagne. Et cette, ce petit chameau, je ne sais pas comment on dit un petit chameau, on va dire petit chameau, il versa des larmes et il poussa trois mugissements. Il cria trois fois. Et là, Salih, il dit qu'un jour pour chaque mugissement, pour chaque cri qui sortit de la bouche du chameau, du bébé chameau, c'était un jour de azab, deuxième jour de azab, troisième jour de azab. Et là, il annonçait à son peuple quelle sera votre punition. Le premier jour, vos faces rougiront, vos figures deviendront rouges. Le deuxième jour, deviendront jaunes. Et le troisième jour, vos visages noirciront et ensuite sera la destruction totale. Alors certaines personnes, ils ont même essayé d'assassiner maintenant Hazrat Salih alayhi salam. Et Allah Ta'ala envoya une pluie de pierres qui détruisit ces personnes qui voulaient tuer Salih alayhi salam. On résume là, on va beaucoup plus vite. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Au premier jour, le peuple a vu que leur visage était devenu rouge. Ils ont dit que voilà, c'est ce que Salih avait promis. Hein? Et c'était comme si que leur visage était enduit de sang. Deuxième jour, leur visage était jaune. C'est comme si qu'on avait mis du safran sur eux. Et le troisième jour, leur visage était noir. Et au quatrième jour, hein, ils savaient, ils s'étaient préparés. Ils attendaient quand est-ce qu'Allah allait les détruire. Ils savaient que le châtiment allait tomber. Mais ils ne savaient pas comment Allah Ta'ala allait les détruire. Et au lever du soleil, il y a eu une lumière, une clameur du ciel, pas une lumière, pardon, un bruit terrible qui est venu du ciel. Selon certains commentaires, c'était le cri, un cri poussé par l'ange Gabriel. C'est Jibril alayhi salam qui a poussé un cri qui a anéanti tout ce peuple. Ce cri qui va les saisir et accompagné d'un terrible tremblement au-dessous d'eux. Et ils sont morts tous ensemble. Leur âme en quittait leur corps qui furent réduits en cadavres inertes. Et Salih dit que, ô mon peuple, je vous ai bien transmis le message d'Allah. Je vous ai porté le bon conseil, mais vous n'aimez pas qu'on vous conseille. Donc c'était la destruction totale de ce peuple, mis à part ceux qui ont cru en Salih. Et en commentaire dit que cette histoire de Salih est valable jusqu'au Qiyamah. Et lorsque le prophète était parti à la campagne de Tabouk avec les Sahaba, ils ont campé près de l'endroit où est descendu le azab. Et les gens, ils ont pris de l'eau du puits du peuple de Thamoud. Ils ont commencé à cuisiner, à faire donc de la pâte pour faire leur pain. Le prophète les a interdit de consommer de ça. Ils ont dit, le prophète leur a demandé de jeter le contenu des marmites et de donner la pâte aux chameaux. Donc, eux ne mangent pas ça. Et puis, ils se sont déplacés. Ils sont partis près du camp, près du puits où buvait la chamelle. Et là, ils ont pu s'alimenter et utiliser cette eau. Et le prophète, lorsqu'il passait près de leur demeure, le prophète se couvrit le visage avec son manteau. Hein, et il ne descendait pas, il restait chez sa monture et il ordonnait aux sahaba de ne pas s'attarder parce que c'était l'endroit où le adab d'Allah est descendu. Ou alors, si vous y passez, passez en pleurant et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de vous protéger. Donc, cette histoire, hein, c'est une anecdote. Quoi que les musulmans comprennent que d'autres peuples auparavant, ils n'ont pas cru en leur prophète, ils ont fait preuve d'orgueil, et ils ont été violents, ils ont persécuté, ils ont fait du tort à leur prophète, mais en finalité, Allah Azzawajal a donné la victoire finale à son prophète et à ceux qui l'ont suivi. Donc ça c'était, en résumé, l'histoire du peuple de Thamoud, dont Salih alayhi salam a été envoyé vers eux. Donc, dernier point, comprenons que Allah Ta'ala n'a pas opprimé ses peuples. Allah Ta'ala avait annoncé par le biais de Salih alayhi salam que ces gens allaient faire tel péché. Ils savaient qu'il ne fallait pas faire ça. Ils avaient donc le choix entre faire tuer l'animal et ne pas tuer l'animal. Lorsqu'ils ont choisi de tuer, là le adab d'Allah est descendu. Comme a dit le Coran, « Zahara al-fasad ou fil barri wal-bahri bima kasabat aydi nas » Toutes les choses mauvaises et calamités qui arrivent, c'est par rapport à ce que les gens ils font. Donc Allah Ta'ala laisse le libre arbitre et c'est l'homme qui décide de ses péchés, de ses actions, pardon. Et selon ses actions, Allah Ta'ala il prend la décision pour ces personnes. Et dernier verset, voilà, فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ مِدَبِّهُمْ Ça va s'en expliquer que le adab est venu, les a couverts et les a anéantis. C'est un adab terrible. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا Dans ce dernier ayat, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah n'a pas peur. Comment est la traduction? Et Allah, وَقَدْ خَابَ مَنْ نَسَّاهَا Et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Ça veut dire quoi? Les commentateurs disent que lorsque un roi il punit quelqu'un ou il envoie une armée pour détruire toute une population, que ce soit un roi ou un chef d'armée, il a toujours une crainte d'un retour, que parmi les générations futures, ou alors les villages avoisinants, ils vengent la mort de leur frère ou de leur proche. Il dit, mais Allah, parce qu'Allah, il détruit un peuple, c'est parce qu'Allah, ta'ala, il sait que ce peuple méritait la destruction, et lorsqu'Allah, il détruit, Allah, il n'a aucune crainte de ses créatures, ça c'est clair, et Allah, c'est le seul qui décide, c'est le seul juge, et qui agit comme il le plaît, tout en avec la hikmat, la sagesse qui est propre à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah donne tawfiq, de comprendre l'essentiel de ce verset, quand nous voyons la création d'Allah, que nous pensons à la grandeur d'Allah, et quand nous voyons les créatures qui marchent sur cette terre, nous pensons également à la grandeur d'Allah, lorsque nous voyons les fonctions, les cinq sens, et la capacité de réfléchir, d'agir, de travailler, de comprendre, tout cela, ce sont des signes de la création d'Allah. Si c'est Allah qui a tout créé, Allah seul mérite d'être adoré, et qu'on comprenne que nos actions également ont été créées par Allah, et nous devons demander à Allah, ihdina as-sirata al-mustaqim, de nous guider vers le droit chemin, de nous garder vers le droit chemin, et de nous choisir pour accomplir de bonnes actions, et de purifier notre intérieur, afin de faire partie de ces qad aflaha, de ces personnes qad aflaha, ont eu le succès, man zakkara, donc ceux qui sont restés sur le droit chemin, et ont protégé leur corps, leur âme, hein, des turpitudes et tous les péchés, donc de comprendre ces quelques paroles, et de tirer le son également de l'histoire du peuple de Thamoud, et qu'Allah nous protège d'accomplir une action qui va à l'encontre de ses ordres, et des ordres de son prophète, ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.